« je le sais, sourit l'abbé. Et vous savez avec quelle sollicitude fraternelle notre ordre a accueilli les spirituels quand ils ont encouru les colères du pape. Je ne parle pas seulement d'Hubertin, mais aussi de nombreux autres frères plus humbles, dont on ne sait pas grand-chose, et dont on devrait peut-être savoir davantage. Car il nous est arrivé d'accueillir des transfuges qui se sont présentés vêtus du froc des minorites, et par la suite j'ai appris que les vicissitudes de leur vie les avaient conduits un certain temps fort près des Dolciniens. Même ici ? Demanda Guillaume. Même ici. Je suis en train de vous révéler quelque chose dont en vérité je sais bien peu, et en tout cas pas assez pour formuler des accusations. Mais vu que vous enquêtez sur la vie de cette abbaye, il est bon que vous aussi soyez au courant. Je vous dirai alors que je soupçonne, attention, je soupçonne, sur la base de ce que j'ai entendu ou deviné, qu'il y a eu un moment plutôt obscur dans la vie de notre scélérier, qui précisément arriva ici il y a des années à la suite de l'exode des minorites.
Le scélérier ? Remigio de Varagine ? Un dolcinien ?
Il m'a l'air de l'être le plus doux et en tous les cas le moins soucieux de ma donne pauvreté que j'ai jamais rencontré, dit Guillaume. Et de fait, je ne puis rien dire contre lui, et je me prévaux de ses bons services pour lesquels la communauté entière lui est reconnaissante. Cela dit, pour vous faire comprendre comme il est facile de trouver des affinités entre un frère et un fraticelle.
Encore une fois, votre grandeur est injuste, s'il m'est permis de le dire, interrompit Guillaume. Nous parlions des Dolciniens, pas des fraticelles, sur lesquels on pourra gloser à l'infini, sans même savoir de qui on parle, tant il y en a d'espèces, mais pour les taxer de sanguinaires. Au maximum, on pourra leur reprocher de mettre en pratique, sans trop de bon sens, ce que les spirituels ont prêché avec une plus grande mesure, et animé par un véritable amour de Dieu. Et en cela, je conviens qu'il existe une démarcation fragile entre les uns et les autres.
Mais les fraticelles sont des hérétiques,
interrompit sèchement l'abbé.
Ils ne se bornent pas à soutenir la pauvreté de Christ et des apôtres, doctrine qui, même si je ne suis pas enclin à la partager, peut être utilement opposée à l'arrogance avignonnaise. Les fraticelles tirent d'une telle doctrine un syllogisme pratique. Ils en infèrent un droit à la révolte, au saccage, à la perversion des mœurs.
Mais quelles fraticelles ?
Tous en général. Vous le savez qu'ils se sont souillés de crimes abominables, qu'ils ne reconnaissent pas le mariage, qu'ils nient l'enfer, qu'ils commettent la sodomie, qu'ils embrassent l'hérésie bogomile de l'horrible Bulgarie et de l'horrible Drigonti.
Je vous en prie, dit Guillaume, ne confondez pas des choses différentes.
Vous parlez comme si les fraticelles, patarins, vaudois, cathares, et parmi ces derniers bogomiles de Bulgarie et hérétiques de Dragovitsa, c'était du pareil au même. Ça l'est, coupa l'abbé. C'est du pareil au même. Parce qu'ils sont hérétiques, et parce qu'ils mettent en danger l'ordre même du monde civil. L'ordre de l'Empire aussi, que vous semblez appeler de vos voeux. Il y a 100 années et plus, les disciples d'Arnaud de Brescia incendièrent les demeures des nobles et des cardinaux. Et ce furent là les fruits de l'hérésie lombarde des patarins. Je sais des histoires terribles sur ces hérétiques. Et je les ai lues dans Césaire de Heisterbach. À Vérone, le chanoine de Saint-Gédéon, Everard, remarqua un beau jour que celui qui l'hébergeait sortait chaque nuit de chez lui en compagnie de sa femme et de sa fille. Il interrogea je ne sais qui des trois pour savoir où ils allaient et ce qu'ils faisaient. « Viens, et tu verras », lui fut-il répondu, et il les suivit dans une habitation souterraine, très vaste, où se trouvaient rassemblées des personnes des deux sexes. Un hérésiarque, alors que tout le monde faisait silence, tint un discours plein de jurons, dans le but de corrompre leur vie et leur mœurs. Puis, une fois le cierge soufflé, chacun se jeta sur sa voisine sans faire de différence entre l'épouse légitime et la fille nubile, entre la veuve et la vierge, entre la maîtresse et la servante, ni, ce qui était pis, que le Seigneur me pardonne au moment où je dis de si horribles choses, entre sa propre fille et sa propre sœur. Everard, à ce spectacle, en jeune insouciant et luxurieux qu'il était, se faisant passer pour un disciple, aborda, je ne sais plus très bien, la fille de son hôte ou une autre fillette, et après que fut éteint le cierge, pêcha avec elle. Il fit cela, hélas, pendant plus d'un an. Et à la fin, le maître dit que ce jeune homme fréquentait avec tant de profit leur séance qu'il serait bientôt en mesure d'instruire les néophytes. À ce point-là, Everard comprit dans quel abîme il avait chu, et il parvint à fuir leur séduction en arguant qu'il avait fréquenté cette maison non point parce qu'il était attiré par l'hérésie, mais parce qu'il était attiré par les jeunes filles.
ils le chassèrent.